Voilà, bonjour. Donc, on va commencer la conférence de cet après-midi. Donc, on est heureux aujourd'hui d'accueillir Lounès Tchiki, qui travaille dans différents endroits, notamment au Portugal, mais y compris à Madagascar, et qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être présent à la fête pour nous parler d'un sujet qui est d'actualité. Aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes de la génétique, on arrive à appréhender un certain nombre de scénarios de la préhistoire de manière un peu différente. Et donc, il a travaillé sur ces sujets-là, aussi bien sur une histoire assez ancienne autour de Néandertal, comme une histoire plus récente autour des premiers agriculteurs qui sont arrivés en Europe depuis l'Europe de l'Est il y a environ 10 000 ans. Et donc, il va nous raconter un peu ce que la génétique, elle nous permet de comprendre de tout ça, ou pas, à partir de ce qu'on en sait aujourd'hui. Donc voilà, je le remercie déjà d'être venu discuter de tout ça avec nous à la fête. Voilà.
Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Lounès Tchiki. Je voulais commencer d'abord par remercier Sébastien qui en fait... Vous m'entendez là? Ça marche bien? Non? Alors? Bonjour, je suis Lounès Tchiki. Donc je veux remercier Sébastien qui en fait m'a invité déjà il y a 3 ans et l'année dernière, mais j'avais pas pu venir. Et je suis vraiment très content en fait d'être ici. Je le remercie, c'est pour ça qu'il apparaît un peu comme un des co-auteurs, mais aussi pour qu'il soit responsable si ça se passe mal. Je voulais remercier aussi Guido Barbellani qui a été la personne qui m'a amené à me poser des questions en fait sur la transition néolithique, c'est-à-dire en fait le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés d'agriculteurs, et à essayer de voir dans quelle mesure les données génétiques permettent de poser au moins des questions et d'apporter certains types de réponses à cette transition qui est probablement une des transitions les plus importantes au cours de l'histoire de l'humanité. On sait que pendant la majeure partie de l'évolution humaine, les êtres humains ont plutôt été chasseurs, cueilleurs, ont exploité leur environnement, probablement d'ailleurs de manière intelligente, probablement en faisant de ce qu'on appelle de l'horticulture, bien avant de passer à des systèmes qu'on reconnaît nous aujourd'hui comme de l'agriculture. Ça s'est fait dans de nombreuses régions du monde. C'est pas évident du tout que ça soit passé de la même façon partout. Et il y a plein de façons d'aborder ces questions. Il y a des archéologistes, il y a des linguistes, il y a des généticiens. Donc c'est des types de données qui sont très très différents, qui ont des propriétés différentes. Nous on sait comment se transmettent les gènes de génération en génération. En revanche, les langues, les artefacts archéologiques, les cultures se transmettent de manière très différente. Donc c'est pas trivial de lier ces choses. Et je pense pas qu'on ait encore aujourd'hui des cadres théoriques réellement solides pour mettre tout cela ensemble. Donc on a des petits bouts de lumière qui permettent d'aborder certaines de ces questions. Et Guido Barbellani est vraiment la personne qui m'a amené à me poser des questions sur ce sujet, et il a été en plus extrêmement généreux puisque plusieurs des diapositives que nous allons voir, enfin que je vais vous montrer, c'est Guido qui les a faites, qui nous a donné. Parfois je les ai un peu modifiées pour les adapter. Et voilà. Et donc autre chose, c'est donc moi je suis chercheur au CNRS à Toulouse. Je suis parisien d'origine, et il se trouve que depuis un certain nombre d'années, je suis responsable d'un groupe de recherche aussi au Portugal, dans un institut qui s'appelle l'Instituto Gulbenkian de Ciência. Donc voilà. Alors, une autre chose, c'est que je vais parler, j'ai un certain nombre de matériels que je peux présenter, je ne me sens pas du tout obligé de tout présenter. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, ça ne me gêne pas du tout d'être interrompu, et je vois plus comme potentiellement une discussion. Si quelqu'un à un moment dit « Mais attendez, on ne comprend rien ce que vous racontez », dites-le, j'essaierai de ne pas le prendre trop mal. Et voilà, en guise d'introduction. Alors, pour justement essayer d'expliquer mon point de vue, et bien comprendre qu'en fait, mon point de vue, c'est un point de vue très particulier. Je suis généticien de population, ça veut dire que je me pose des questions sur comment la diversité génétique est distribuée dans les populations aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut se dire, et les populations, ce n'est pas les populations humaines. Vous allez voir, je travaille sur plusieurs espèces. Et c'est vraiment de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'il y a de la variabilité génétique? Quand je vais à tel endroit, il y en a moins à tel autre. Quels sont? Donc la première chose, c'est de décrire. Et ensuite, la deuxième question, et c'est là qu'on rentre dans un processus, je dirais, évolutif, c'est de se dire, mais comment en est-on arrivé là? est-ce qu'il y a plus de diversité à tel endroit pour des raisons de sélection, pour des raisons de ce qu'on appelle des processus stochastiques, c'est-à-dire aléatoires? C'est juste par hasard, si je viens dans 5000 ans, ben, il y aura peut-être de la diversité ailleurs. Il n'y a pas nécessairement à chercher une signification à cette diversité. C'est toutes ces questions qui sont assez importantes, qui ne sont pas du tout faciles. Ça requiert de la modélisation parfois, ça requiert vraiment des questionnements sur comment on obtient les données. Et le groupe de recherche dont je suis responsable au Portugal, par exemple, s'appelle Population and Conservation Genetics. Alors, les diapositives ont beaucoup d'anglais. J'ai essayé d'en traduire un certain nombre en français pour aujourd'hui ou d'en faire des nouvelles en français. Mais en général, s'il y a de l'anglais, c'est que je vais expliquer ce que je dis. Et je pense que de nos jours, beaucoup de gens, en tout cas, ont une idée de tout ça. Donc l'idée, c'est de dire j'ai des données génétiques à un niveau qu'on peut appeler la population. Donc je vais quelque part et j'observe quelque chose que j'appelle des données génétiques. Je ne vous explique pas ce que je veux dire, c'est juste un concept pour l'instant. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux en dire pour des espèces menacées. Et donc essayer de dire l'habitat, par exemple, d'une espèce menacée se fragmente à cause, par exemple, de changements environnementaux, à cause de la destruction des environnements naturels. Est-ce qu'il y a toujours de la diversité dans cette forêt, par exemple, et plus du tout ici ? À quoi est-ce dû ? Est-ce dû vraiment à la destruction récente de l'environnement ? Est-ce dû à des activités humaines, à des activités climatiques ? À quelle échelle temporelle se place-t-on ? Et en fait, les outils que nous développons ici sont extrêmement similaires. Il s'agit de se poser des questions sur les populations humaines. Et donc, par exemple, j'ai travaillé, et j'en parlerai un peu sur la fin, sur la transition néolithique, à savoir donc ce passage des populations humaines, notamment en Europe et à partir du Proche-Orient, où des populations qui jusqu'à présent donc chassent, cueillent, vivent à des petites densités, se mettent à se sédentariser, à vivre d'autres types de vie, à domestiquer des plantes, des animaux, à avoir des populations beaucoup plus denses. Et on sait, elles commencent à coloniser, en tout cas les cultures du néolithique colonisent, on les voit vraiment partir de certaines zones, on va le voir, elles colonisent des zones. La question, c'est est-ce que ce mouvement est accompagné par un mouvement de personnes, ou est-ce qu'il est accompagné, ou est-ce qu'il est simplement un changement culturel? De la même façon que nous portons tous des jeans, cela ne veut pas dire que nous sommes tous mariés avec des Américains, ou que tous nos parents sont Américains. Il y a une transmission culturelle, donc il y a des changements culturels qui peuvent se passer sans qu'il y ait nécessairement un mouvement de population. Ça, je pense, c'est assez trivial. Et du coup, dès qu'on se pose la question de cette manière, on se dit, ben alors, du coup, vu que les gènes, eux, sont transmis par les gens, je devrais pouvoir modéliser et essayer de voir entre deux histoires différentes, l'une où les gens bougent, l'autre où les gens ne bougent pas, laquelle explique ce que j'observe aujourd'hui dans la diversité des populations européennes. Voilà. Et notre travail, c'est à la fois d'obtenir des données, de les analyser et parfois de développer des nouvelles méthodes. Alors je commence par Madagascar juste parce que c'est un de mes dadas récents. On se pose des questions ici de fragmentation de l'habitat dans un cas réel où on a donc Madagascar, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, c'est une très grande île, hein, c'est plus grand que la France. En général, c'est aussi grand que la France plus la Belgique. C'est dans l'océan Indien, juste en face du Mozambique. Donc si vous prenez la côte orientale de l'Afrique, vous avez une zone qui d'ailleurs s'appelle le canal du Mozambique, qui sépare le Mozambique de Madagascar. C'est pas très loin des Comores. Et un peu à l'est, vous avez la Réunion et l'île Maurice. Et en fait, il y a des transformations de l'environnement qui sont extrêmement importantes, avec des déforestations. Par exemple, ça, c'est la zone est de forêt tropicale, où on a des données des années 50 aux années 80, on a vu la forêt vraiment disparaître. Et le genre de questions qu'on se pose, c'est dans quelle mesure ces changements ont impacté les populations existantes. Et on le fait à nouveau dans un cadre historique, puisque l'on sait qu'à Madagascar, avant, toutes ces espèces existaient. Il existait des lémures géants qui ont complètement disparu. Et en fait, aujourd'hui, le plus grand lémure qu'on connaisse, il a cette taille, donc vous voyez, c'est celui-ci. Et pour donner une échelle, celui-ci est représenté à côté d'un chercheur inconnu. Donc voilà. Et les questions qu'on se pose, donc, c'est de se dire, bon, l'homme qui arrive à Madagascar, parce qu'on a de très bonnes raisons de penser que c'est à la fois probablement climatique, mais aussi un impact humain, va générer la disparition d'espèces. Et nous, la question qu'on se pose, c'est sur celle qui reste aujourd'hui, sur la DNA génétique, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette histoire? Et tous les outils qu'on essaie de développer dans ce genre de problématique, en fait, servent pour à peu près n'importe quelle espèce. Et comme je voulais être sûr que même si mon exposé était peut-être ennuyeux, que vous ayez des jolies images avant qu'on commence, donc ça c'est un peu comme la première partie d'un concert, voilà un peu les différents types de lémuriens qu'on observe, et pour peut-être donner une image qui moi était une des choses les plus choquantes, enfin choquantes positivement quand j'ai découvert Madagascar, c'est qu'en fait à Madagascar, il y a des lémuriens qui sont des primates, donc les lémuriens c'est un groupe de primates qui n'est présent que à Madagascar, c'est le plus petit primate au monde, et le plus grand qui a disparu était probablement aussi grand qu'un gorille. Donc, ça veut dire qu'à Madagascar tout seul, vous aviez l'extrême diversité du reste de la planète entière en termes de taille. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Madagascar reste un exemple assez fascinant. Maintenant, où est-ce que ça m'amène ? Donc, travailler à Madagascar, travailler sur la transition néolithique, ça m'a amené à me poser des questions sur, bon, on a des données génétiques, comment on va les comprendre ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ok, il y a de la diversité ici, il y a de la diversité là, il n'y en a pas. Est-ce que c'est parce qu'on vient de détruire la forêt ? Ou est-ce qu'en fait, c'est vrai qu'on a détruit la forêt ? C'est vrai que si on ne fait rien, l'espèce va disparaître. Mais ce qu'on observe génétiquement, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, parce qu'il y a un décalage. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le résultat de quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire avec des données génétiques ? D'accord ? C'est vraiment des questions. Moi, je crois, bien entendu, il faut sauver les espèces Madagascar, il faut faire quelque chose. Mais il faut le faire dans un cadre aussi cohérent que possible, être clair sur ce qu'on peut dire. Et les questions que ça nous amène à le faire, et vous allez voir que ça a en fait de grosses influences aussi sur Néandertal, c'est des questions qu'on appelle de modélisation. C'est de se dire, voilà, j'ai un environnement, et il y a des moments où il va falloir que je décide comment je modélise ça. Et en fait, globalement, les généticiens des populations, ils simplifient toujours le monde. C'est inévitable, hein, on fait de la modélisation, on modélise, on simplifie. Donc on va dire, par exemple, ça, c'est une grosse population où tout se mélange. Non, il y a plusieurs petites populations, chacune d'elles est très mélangée, mais elles sont un peu différentes, un peu comme des granules. Ou alors, non, il y a une sous-unité qui est vraiment, c'est ça la vraie unité intéressante, c'est les groupes sociaux, les groupes familiaux. Et en fait, il y a des choses qui peuvent se passer, qui ne peuvent s'expliquer que par l'un ou par l'autre. Et les questions qu'on va se poser, c'est comment modéliser ça, quelle influence ça a sur ce qu'on va raconter, et à quelle échelle, il y a un moment, tel modèle est problématique, et à quelle autre échelle il ne l'est pas. Alors maintenant, je reviens sur l'homme, puisque c'était quand même le sujet. Donc voilà, on a 7 milliards de personnes à peu près, on a 4 à 6 000 langages parlés. Le nombre exact ne sont jamais clairs, puisque ça dépend de comment on définit un langage, par exemple. Et les questions qu'on se pose, donc, c'est comment décrire cette diversité et comment comprendre comment elle s'est mise en place aujourd'hui. Alors, pendant longtemps, je ne sais pas si on voit bien, pendant longtemps, en fait, sur l'évolution humaine, les données qu'on a, c'est des données de type paléoanthropologique. Alors, on ne va pas aller en détail de cette carte, mais on part du présent, on va à peu près à 4 millions d'années. Ce n'est pas la dernière version de ce qu'on raconte, mais elle donne une idée des choses. Et on voit qu'on est sur une échelle de millions d'années. C'est quelque chose qui est, pour moi, inimaginable. On a des choses qui sont étalées sur un continent, plusieurs continents parfois. Et les paléanthropologues racontent des histoires, hein, autant qu'ils peuvent, sur ça. Et ils vous font, ils vous disent, bon ben voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, Homo habilis, il est là, on ne sait pas très bien, probablement il est connecté à Erectus. Ils n'étaient pas là. Tout à l'heure, on a vu, alors ce matin, certains d'entre vous ont peut-être vu André Langanet, que je vois au fond là-bas, qui a fait un très bon exposé justement sur ces migrations humaines, voire les migrations entre ces choses-là, dont on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Et les questions qui vont nous intéresser là se passent dans une échelle temporelle plus récente. On est là, on va dire à moins d'un million d'années, on pourrait aller un peu plus ancien, mais globalement. Et en fait, les choses dont je vais principalement parler maintenant, c'est les liens entre Néandertal et Homo sapiens. Sachant que, en gros, les spécialistes, s'il y a des gens qui dans la salle, moi je suis généticien des populations, je rappelle, hein. Donc si je dis des bêtises et qu'il y a des spécialistes qui veulent dire non, en fait, maintenant on dit ça, ça ne changera pas grand-chose sur ce que je vais dire après, mais c'est juste clarifié. En gros, on dit, voilà, il y avait l'Habilis où il y a Erectus, et c'est peut-être Erectus qui se transforme en Heidelbergensis, qui lui-même ensuite va donner naissance à Néandertal et Sapiens. C'est une des histoires qui semble assez raisonnable, qui est crue. Et là, en fait, pour comprendre certaines choses que je vais dire après, il faut se rendre compte qu'il y a eu une véritable révolution au cours des 15-20 dernières années avec la génomique. La génomique, c'est quoi ? C'est qu'avant, on faisait de la génétique. C'est pas juste de la mode de parler de ces deux termes. Génétique, si on allait voir des petits bouts d'ADN, on en a regardé un, on a regardé un deuxième, sur plusieurs personnes. Mais par exemple, on va regarder, je sais pas, l'hémoglobine sur plein de gens, les gènes qui correspondent à un groupe sanguin, on va les regarder sur plein de gens, mais on en regarde un certain nombre, pas très très grand. La génomique, il y a eu un changement d'échelle où tout d'un coup, on essaie de regarder le génome entier, ou alors des nombres de petits bouts d'ADN tellement grands que ça change complètement l'information qu'on a. Ça change en fait plein de problèmes computationnels, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Il faut les gérer. Comment va-t-on les analyser ? C'est tellement grand que c'est pas possible de vérifier tout seul s'il y a une erreur ou pas. Donc en fait, il y a plein de problèmes réels, statistiques, d'analyse. Et il faut être conscient de ça. Mais en même temps, il y a un réel changement, on le voit ici. Si on passe entre les années 2000, on a, alors là vous ne le voyez pas au fond, mais je vous le dis, c'est le premier brouillon, le premier génome humain obtenu. Et on a une augmentation ici, ça c'est quoi ? C'est le temps qui passe, et ça c'est la quantité d'ADN qu'on produit au cours des années. Et vous voyez qu'on va avoir une révolution technologique ici, qui va faire qu'on passe d'une situation, par exemple, lorsqu'on fait le programme, c'est HGP, c'est Human Genome Project, donc quand ce projet est lancé, il faudra 13 ans pour obtenir le génome d'une personne. En fait, ce n'est même pas le génome d'une personne, c'est probablement un mélange. Maintenant, vous savez qu'on peut en quelques jours, et maintenant il y a même des compagnies qui vous font non pas le génome, mais une très grande partie ou une partie de votre génome pour, je crois que c'est $100, et vous avez quelque chose qu'on vous envoie par la poste. Donc, il y a plein de problèmes, hein, c'est pas de ça que je veux parler, mais il y a un changement complet d'échelle. Et par exemple, là c'était rigolo parce que puisque je vais parler de Néandertal, est paru dans la revue scientifique Science, il y a deux jours, le 22 mai, un rapport où la personne, donc on a un truc sur l'évolution humaine, et l'article dit, donc l'ADN ancien suggère une liaison paléolithique en Europe. Alors vous me direz, on le sait un peu déjà. Oui, on le sait, et je vais en parler. Mais là, ce papier, évidemment, appelle l'attention au fait qu'on a trouvé un fossile. Enfin, on n'a pas trouvé. C'est un fossile qui était déjà connu, que certaines personnes avaient suggéré. Il est un peu trop robuste pour être un Homo sapiens. Il n'est pas assez robuste pour être Néandertal. Et il y a des gens qui avaient dit, peut-être que ce serait un hybride. Un hybride de père et mère néandertalien Homo sapiens ou de arrière-grand-père néandertalien, personne ne savait. Et là, dans ce rapport, l'article n'est pas publié lui-même, mais c'est le résultat d'une conférence où la personne dit que cet individu aurait entre 5 à 11% de son génome qui est néandertalien. Et un début de cet exposé, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, de montrer que c'est pas trivial, qu'il y a eu des combats sur tout ce discours, et que ce genre de discours de dire on a des gènes néandertaliens, on n'a pas des gènes néandertaliens, c'est un truc qui remonte presque depuis l'existence des premiers fossiles où il y a eu des désaccords. Alors ça, supposément, c'est un néandertalien. Évidemment, on n'en a jamais vu. Ça, c'est la reconstruction faite par un artiste sur la base des données qu'on a sur les crânes. Moi, je ne sais pas s'il ressemble vraiment à ça. Moi, il m'a l'air plutôt sympathique de toute façon. Donc moi, si j'ai des gènes néandertaliens, ça me va, comme dirait André. Là, c'est une représentation à nouveau. J'ai pas d'opinion particulière sur cette présentation. Une des choses qu'a dit ce matin aussi André, rappeler, c'est qu'une des choses qui nous caractérise, pareil, je suis généticien des populations, il a fallu qu'on me le dise, nous on a un menton là, si vous touchez, vous allez voir que vous avez un petit bout, là, voilà, c'est bien, tout le monde touche. Donc on touche, vous voyez bien que vous avez un petit bout d'os là qui sort. Et bien en fait, les néandertaliens, ils n'en ont pas. Moi je trouve que ça se voit pas spécialement une fois que vous rajoutez un peu de muscles, de graisse et de peau, voilà. Mais c'est une des nombreuses choses que des spécialistes disent sont différentes entre eux et nous. Alors je suis désolé, c'est des images un peu choc. Est-ce qu'il y a des enfants dans la... Ouais, je ne savais pas, j'étais prêt à passer rapidement à la prochaine. Alors, supposément, les Homo sapiens étaient plus fins, supposément, enfin, non, ça c'est fait, un fait, les Néandertaliens sont plus robustes, potentiellement plus petits. Alors, moi j'avais lu des choses où on disait qu'ils étaient plus grands, puis maintenant on dit qu'ils sont plus petits, je crois que, enfin, je ne sais pas s'il y a des. En revanche, le cerveau, ça c'est une des choses qui est rigolote, c'est qu'en fait, quand on découvre les premiers Néandertaliens, on dit qu'ils ont un plus petit cerveau, puis on dit qu'ils ont une taille moyenne, et puis en fait, ils ont en fait un cerveau plus grand. Ça reste toujours embêtant, puisque pendant longtemps, on considère que le cerveau, c'est ce qui définit notre supériorité. Donc en général, on trouve toujours des métriques pour faire que les espèces qui ont des plus gros cerveaux que nous finissent toujours en bas de l'échelle. Si la taille du cerveau toute seule ne suffit pas, on la divise par le poids de l'individu. Si ça ne suffit toujours pas, on y rajoute un logarithme, une multiplication. On trouvera toujours moyen d'être au-dessus d'en haut de l'échelle, de toute façon. Ce qu'on sait, c'est que les Néandertaliens et les modernes ont cohabité. Ils ont cohabité en Europe, ça, on le sait, donc on a même des photos, donc c'est vraiment... c'est vrai, il y a des gens qui doutent. Bon, mais évidemment, on comprend la petite fille, hein, c'est lui, il est sympa, il a un gros nez. Alors, par contre, vous avez des gros nez. D'habitude, c'est symbolique, mais bon. Alors, question, c'est la grande question. Alors, c'est pas le Néandertalien à droite, vous reconnaîtrez le film. Question, ils ont cohabité. Et plus, si affinité, ou ils ont partagé un appart, que s'est-il passé? Et en fait, ça, c'est une des questions. D'abord, c'est intéressant parce que, dans le moi, je suis généticien des populations, mon background est différent. Et l'histoire, pour autant que je sache, c'est pas nécessairement la première question qui s'est posée sur les Néandertaliens. Quand on trouve les premiers Néandertaliens, on se dit pas est-ce qu'ils se sont mélangés à l'homme. Non, quand on les trouve, d'abord on ne sait pas ce que c'est. Et je vais faire un petit rappel ici. 1856, c'est la date généralement considérée de la découverte. En fait, c'est pas vrai. Hein. C'est pas la découverte, c'est juste qu'on trouve un fossile sous 1m50, c'est des ouvriers qui trouvent. Dans la vallée de Düssel, donc près de Düsseldorf, ça vallée Nürnberg. Vous savez, je pense que Tal, en allemand, Tal, ça veut dire vallée. Nürnberg, Tal, c'est la vallée de Nürnberg. Voilà. Au moins, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas fait allemand première langue. Fabrice, oui. Et en fait, on trouve ce crâne. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est la première personne qui va y avoir accès, on va le donner à un anatomiste de Bonn, qui s'appelle Schaffhausen, et lui va écrire tout un ensemble, une analyse apparemment très très bonne, et il en conclut quand même, bon, ça pourrait, c'est une taille raisonnablement acceptable de cerveau, ça pourrait être une de ces races barbares comme ces fameuses races nordiques. Parce que notamment, les Néandertaliens ont une très forte arcade sur celui-là, je pense, je ne sais pas si c'est la terminologie exacte. Et donc, c'est un peu le genre de choses. En fait, un de ces Huxley, c'est intéressant de savoir, 1858, donc 1859, c'est la publication de L'origine des espèces, de Darwin. Huxley, c'est un des très grands défenseurs de Darwin et de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Donc, Huxley arrive, et lui, il fait une analyse des données, lui, il veut défendre l'évolution, donc il est dans une pensée évolutive, et il se pose la question de tous les fossiles qu'on a, et comment on les organise avec l'homme. Lui, il est persuadé qu'il y a une évolution. Darwin, en général, il fait gaffe. Il ne veut pas trop avoir de problèmes. Il est quand même, contrairement à ce qu'on dit, en fait, il n'est pas athée. Il n'est pas très croyant, peut-être, mais il n'est pas athée. Lui, je pense, Darwin, c'est qu'il ne cherchait pas trop les problèmes. Donc, il a fait attention à ce qu'il écrivait. Et André pourra éventuellement commenter si je dis des bêtises. Mais donc, Huxley, lui, arrive, il dit, lui, il essaie de placer les zones néandertaliennes, il dit, à mon avis, c'est pas une forme, ce n'est peut-être pas une forme intermédiaire entre l'homme moderne et les singes dans le sens, alors pour lui, ça veut dire que c'est pas un truc très primitif, c'est plutôt un truc qui ressemble à l'homme, mais on va dire plutôt dans les primitifs par rapport aux hommes. Donc lui, il le voit quand même pas si loin que ça de l'homme moderne. Maillard, qui n'aime pas Schaffhausen, apparemment, moi j'étais pas là, dit pas du tout, c'est que des conneries. Ce mec, c'est un cosaque, il est mort pendant, avec les troupes russes qui allaient envahir la France en 1814, et un certain nombre de personnes plus tard riront un petit peu, diront c'est quand même un peu bizarre ce cosaque russe qui s'est mis à monter toute une montagne, ensuite il s'est enterré sous terre à 1m50, il s'est dévêtu avant puisqu'il est tout nu, il n'y a pas d'habit, il s'est mis à fossiliser hyper vite, rien pour faire chier. Donc les gens disent c'est quand même bizarre, mais bon, il a peut-être raison Maillard, après tout c'est le meilleur, ha 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 ha. Bon, d'accord, j'arrête. C'est le jeu de mots. Et donc, voilà. Donc, c'est une situation un peu bizarre. Ça, je vais parler plus dans cette zone. De nouveau, c'est pas ma compétence directe. J'en ai un peu, c'était intéressant. Parce que cette histoire-là du Cosaque mort, en fait, il dit, le Maillard dit un truc, dit, il avait en plus, parce qu'il avait un pas, en fait, il trouve qu'il y a un problème au niveau d'un coude, de l'os qui est retrouvé, ou d'une partie d'un os, je sais plus. Et ils disent, bon, ce mec, il avait un problème, probablement à cause de, justement, de cette campagne militaire. Et puis, ça le stressait tellement qu'il a fait des trucs comme ça, vous savez. C'est pour ça qu'il y a de grosses arcades sourcilières. Sinon, il y a toute une discussion qui est très, très bizarre. Mais c'est pour donner une idée jusqu'où on va quand on n'aime pas son collègue. Donc ça, c'est un peu le cadre. Et en fait, pendant très longtemps, en fait, ce qui va se passer, pardon, je vous ai dit, donc 1856, en fait, après, on va découvrir des crânes, un qui est à Gibraltar et l'autre qui vient de Angis, je pense, en Belgique, qui sont en fait plus anciens. Celui d'Angis est de 1829, oui, à peu près, ça. Février, le 15 février 1829. Non. Et l'autre est de 1845, celui de Gibraltar. Celui de Gibraltar, il attend dans le musée jusqu'à ce qu'un jour une personne intéressée le découvre, décide de l'envoyer à un spécialiste qui dit « Ah, ça doit être la même chose que le truc qu'on a trouvé à Méander. » Et celui d'Engis, pareil, ils sont remis ensemble, on dit « Ça a l'air d'être finalement, en plus, à Gibraltar, le fossile qui est trouvé, il est trouvé dans des conditions telles que c'est le moment où cette personne se moque de Maillard en disant « Là, vraiment, Maillard, il va avoir du mal à imaginer que le mec allait se foutre dans une fissure pour Gibraltar dans un endroit où nous, on n'arrivait pas à y aller. » Bref, il y a cette idée que Néandertal, c'est quelque chose. Maintenant, on ne sait pas comment le placer par rapport à l'homme. Il va y avoir plein de théories qui vont se mélanger les pinceaux parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent. D'un côté, il y a des gens qui développent des théories de l'évolution humaine dans laquelle les gens disent, en fait, c'est ce qu'on appelle les théories multi-origines, dans lesquelles on dit, en gros, les Chinois, les Asiatiques, ils viennent d'un truc ancien qui était déjà en Asie depuis longtemps. Les Européens, ils viennent d'un truc ancien qui était déjà séparé depuis très longtemps, qui est en Europe. Par exemple, peut-être, il y a des gens qui diront peut-être les Néandertaliens sont-ils ancestraux. Et en Afrique, pareil, c'est éventuellement ce qu'on va découvrir, les Australopithèques, des choses comme ça, et c'est eux. Donc en fait, c'est ce genre de théorie qui disent les groupes humains qu'on observe aujourd'hui ont une séparation très ancienne. D'accord ? C'est en gros, ce serait... Les expansions dont à nouveau a parlé André Langonnet ce matin, c'est les premières expansions hors d'Afrique par les homo, ceux que l'on va plus tard appeler des homo erectus, qui eux, localement, vont générer des races, évidemment, humaines. Donc il y a ce genre de choses, puis il y a des gens qui disent non, pas du tout, il y a une origine seule, il y a une seule origine, mais ils ne savent pas bien. Et en fait, pendant par exemple très longtemps, les gens sont persuadés que l'origine, ça ne peut être qu'en Asie. Donc il y a des tas de choses qui se passent. Et pendant longtemps, les Néandertaliens, donc on n'a que des os, et quand on trouve des choses qui sont un peu intermédiaires, les gens ne savent pas trop les interpréter. Et il y a des gens qui vont dire, ça c'est la preuve que Néandertaliens modernes étaient très proches et se sont hybridés. Et ça, ça génère des controverses. Vous voyez, par exemple, la première nouvelle dont je vous ai parlé revient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout répondre. Et on va commencer à pouvoir répondre parce qu'en 1997... Il y a un papier qui est publié dans la revue Cell. Alors, la revue Cell, elle ne publie pas ce genre de truc en général. Cell, ça veut dire cellule, c'est une revue de biologie cellulaire, extrêmement technique, j'ai envie de dire. C'est une des revues les plus respectées par les gens qui travaillent dans ce domaine. On considère qu'en général, un travail publié là, c'est un travail extrêmement bien construit. Et en fait, Pabo, qui n'est pas vilain, donc Pabo, qui est le chef Svante Pabo, c'est une personne qu'on a retrouvée, parce qu'en fait, Pabo, c'est vraiment, je vais dire, monsieur ADN ancien. C'est vraiment une des personnes vous êtes à peu près sûr, quand il y a une étude sur ADN ancien qui est au top le jour où c'est publié, Svante Pabo est dans les co-auteurs. Il a presque fondé ce domaine avec quelques autres. Il publie en 1997 ce papier avec Krings comme premier auteur, où ils ont réussi, on ne voit pas bien, ça c'est un bout d'os, ils arrivent à récupérer un os d'un néandertalien, ils arrivent à aller récupérer l'ADN qui attend là depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que vous avez de l'ADN qui était là, il y en a très très peu, puisque l'ADN est une molécule qui va être attaquée par les enzymes et qui est donc dégradée au cours du temps, il y a des réactions chimiques qui font que l'ADN se transforme, ils vont réussir avec énormément de problèmes de contamination, parce que vous imaginez bien qu'il y a tellement peu d'ADN que vous devez être, le moindre postillon contient beaucoup plus d'ADN que ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a des c'est un travail technique incroyable. Et ils arrivent à obtenir ce qu'on appelle un petit bout d'ADN mitochondrial. Mais c'est tellement révolutionnaire que donc ça passe dans le sel. Alors, j'avais dit à Sébastien de m'interrompre si jamais j'étais pas clair. Donc, y a-t-il un Sébastien dans la salle ? N'importe qui a le droit de se dire « je m'appelle Sébastien et je trouve que c'est pas clair ». Voilà. Ça compte pas. Un autre. Donc, Sébastien. Donc, ils arrivent à extraire cet ADN, ils arrivent à en séquencer un petit bout, et ils le comparent à l'ADN mitochondrial qu'on a pour plein de populations humaines. Alors, l'ADN mitochondrial, voilà, c'est ça que je me disais, il faut que j'explique. Rapidement, il y a probablement des gens qui le savent. Nous, dans nos cellules, mais les cellules, et au milieu, il y a le noyau. Et la majeure partie de notre ADN, en général, c'est dans le noyau. C'est ça qu'on connaît, en général, quand on dit qu'on a des chromosomes, ils sont là. En fait, autour de ce noyau, il y a des petits trucs qui s'appellent les mitochondries. Donc, vous avez peut-être entendu parler, en gros, c'est ce qu'on appelle parfois les énergies, les sources d'énergie. C'est elles qui produisent la forme d'énergie chimique que nos cellules utilisent, qui s'appelle l'ATP. Bon. En gros, ça produit de l'énergie. Et dedans, il y a de l'ADN. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces mitochondries, elles ont une origine, ce qu'on appelle endosymbiotique. Il y a très, 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 très longtemps, une sorte de bactérie, en fait, plutôt de cyanobactérie, un truc qui ressemble à une algue marine, s'est introduit dans une cellule et a survécu. Et c'est bien installé, et elle produit de l'énergie pour la cellule, et la cellule lui produit un environnement OK. Et puis il va y avoir plein de trucs qui se passent, des bouts d'ADN de ce truc-là, ça va dans notre génome. Donc dans notre génome, on a de l'ADN qui vient de ce truc. Et petit à petit, en fait, ce truc devient dépendant de nous, puisque c'est nous qui, dans notre génome, avons tout le code pour faire fonctionner ce truc-là. Donc cet ADN, il a une caractéristique, comme il est dans les mitochondries, il est transmis principalement avec l'œuf chez les mammifères. Pourquoi ? Parce que le sperme est trop petit, il a quelques petites mitochondries qui sont dans la partie qui donne l'énergie, hein, donc c'est important, mais ce n'est pas transmis. Donc on transmet l'ADN mitochondrial que par la lignée, je dirais femelle, donc la lignée donc chez tous les mammifères, c'est comme ça en général, il y a peut-être des cas extrêmes, mais c'est une règle assez générale. Donc on a, cet ADN mitochondrial ne nous informe que sur l'histoire donc féminine de l'espèce à laquelle on s'intéresse. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde, donc là c'est un arbre. Ce genre d'arbre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est chaque bout, vous avez au bout ici, vous avez un des petits bouts d'ADN que vous avez regardé. Donc vous imaginez, c'est des lettres. Et s'ils sont proches, c'est qu'il y a peu de lettres de différence. Donc par exemple, imaginez, il y a A, 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 et là il y a A, 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 T. Donc il y a une différence, ils sont côte à côte. Celui-là aussi, il a peut-être A, T, A, A. Donc il diffère d'une avec ça, de deux, etc. Donc en fait, on va reconstruire une sorte d'arbre de distance. Et regardez, ça c'est tous les êtres humains qu'ils ont sur le moment. Et ça, c'est le néandertalien. C'est-à-dire le néandertalien qu'ils ont a un ADN qui ne ressemble pas du tout, qui ne ressemble à aucun ADN humain. Et qui est très divergent. C'est pas du tout à l'échelle. Hein. En fait, là, les chiffres qu'on voit, c'est juste des chiffres statistiques. Hein. C'est juste des probabilités de solidité. C'est un résultat d'une analyse statistique. En fait, cette branche, il faudrait la mettre comme ça. Elle est longue. Ouais, non, faites pas la mettre comme ça. Hein. Et voilà. Et ça, c'est vraiment une révolution. Et en fait, ce qu'il conclut, ces messieurs, c'est de dire, sur la base de ça, nous, on pense qu'il n'y a eu aucun mélange. Et à ce moment-là, les paléanthropologues qui défendaient l'idée qu'il y aurait eu du mélange sont un peu la risée, on leur jette des pierres dans les conférences, on leur fait les lits en portefeuille, personne ne se plaint. C'est une très mauvaise période pour ces gens-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le moment, l'idée, c'est de dire, bon, après tout, les individus, parce qu'il y avait principalement un individu sur lequel ce discours était tenu, que c'était un hybride, c'était un enfant. Et on dit, ben ouais, c'est un enfant, donc il ne s'est jamais reproduit puisqu'il est mort. Donc c'est peut-être qu'en fait, il y avait peut-être des hybrides, mais ils n'étaient pas fertiles ou ils n'atteignaient jamais l'âge adulte. Ça va être l'argument, le genre de discours. C'est important, c'est de comprendre comment on construit ce genre de choses. Et en fait, deuxième histoire, arrive Nordberg, Magnus, qui dit « Attendez les gars, moi je fais des stats, on ne la fait pas. » Il fait plein de calculs et il dit « En fait, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas une contribution. » Statistiquement, même si les Néandertaliens avaient contribué 25% de notre génome, par hasard, parce que l'évolution c'est toujours un peu stochastique, un peu aléatoire, par hasard, on aurait pu perdre les allèles mitochondriaux, mais avoir dans notre ADN de l'ADN néandertalien. Et il dit, en fait, si vous faites le calcul, c'est très simple. On peut avoir 25%, et si c'était le cas, en fait, il dit, on aurait 50% de chance de l'avoir ou de l'avoir perdu. C'est-à-dire autant de chances de voir ça ou de voir autre chose. Donc il dit, vous n'avez rien prouvé du tout. On ne peut pas exclure qu'il y a eu mélange. D'accord ? Je suis clair ? Ouais ? C'est bon ? C'est pas ça ? Non. L'idée, c'est de dire, imaginons qu'il y ait un mélange et que les gens avaient un quart de néandertaliens il y a 30 000 ans. Et voilà. Et en fait, vous regardez, vous prenez toutes les femmes, vous regardez tout leur ADN. Donc, il y a les trois quarts sont des modernes, des anonymes, et il y a un quart, c'est de l'ADN mitochondrial néandertalien. Vous les laissez se reproduire chaque génération, et bien par hasard, si jamais par hasard, au début il y a 75-25, mais l'année d'après, la génération d'après, il peut y avoir 76-24 ou 74-26. Et en fait, il montre que par hasard, c'est des problèmes de statistique assez connus, c'est ce qu'on appelle, on peut le voir comme ce qu'on appelle une marche aléatoire, enfin il y a des tas de façons de poser le problème, et bien il dit, selon ce qu'on va calculer, on peut montrer que. Je peux vous montrer qu'il y a 50% des histoires dans lesquelles, par hasard, vous passez de 25% à zéro. Et donc aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Mais en fait, à l'époque, il y a eu 25% de contribution. Et du coup, sur le génome nucléaire qui, lui, est différent, vous allez avoir des gènes néandertaliens. Et on dit, ah ! Et alors là, évidemment, les paléanthropologues se mettent à sourire. Enfin, ceux qui défendent le mélange, ils se disent, ah ben, on a encore une chance. Et ils continuent à maintenir leur discours et ils ont raison. Voilà. Mais arrivent d'autres personnes qui attendent. Magnus, tu te calmes, hein, c'est bien, t'es bon, t'es bon en maths, ok. Mais as-tu pensé à tout ? Et ils disent, et notamment là, on a à nouveau. Il est au fond, donc il y a un papier qui est à nouveau avec Pablo, avec André, dans lequel ils disent on va regarder plusieurs modèles d'histoire. Et on va voir si ce que tu dis c'est vrai, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que tu dis, mais toi, pour dire ce que tu as dit, tu as fait aussi des hypothèses. Quelles sont ces hypothèses ? Implicitement, en fait, Magnus regarde plusieurs scénarios, donc en fait, il propose plein de choses. Et ce que vont faire, donc Serre et les collègues, ils vont faire des simulations avec plein de scénarios, je ne vais pas les expliquer en détail, c'est pas ce qui nous intéresse, ce que je veux, c'est plutôt le. Qu'est-ce qu'on arrive ? Ils disent, en gros, quand on regarde plein de scénarios différents, c'est pas vrai, on peut exclure 25%, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu quelques pourcents, ok, d'accord Magnus, mais c'est probablement très peu. Tous les scénarios réalistes qu'on fait, c'est-à-dire là vous voyez, ça c'est l'homme moderne, ça c'est les néandertaliens qui arrivent et qui participent, on va dire, et en gros ils disent, selon le moment où les néandertaliens participent, c'est-à-dire est-ce que c'est pendant que l'espèce humaine est en train de croître, est-ce que c'est avant, ou alors est-ce qu'il n'y a pas eu de croissance de la population humaine ? Donc selon le moment où ce mélange se fait, ça change tout sur les résultats. Mais en général, la contribution, nous, on pense qu'elle est très faible. Et je rappelle que c'est sur des données mitochondriales à ce moment-là. C'est les seules données qu'on a. D'accord ? Ça va ? Donc, ma question c'est, Magnus, vous avez raison sur le principe. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé ce papier quand il est sorti à l'époque. De Magnus, et j'ai beaucoup aimé aussi celui-là, mais je trouvais qu'il allait plus loin. Et puis moi, j'aime bien tout le monde, hein, donc de toute façon. Et un autre papier que j'aime bien, ça, c'est par donc, des collègues, Cura Excoffier, Laurent Excoffier et Mathias Cura, que à nouveau André connaît très bien, puisque Laurent devait être son étudiant au postdoc. Comment ? Ah, une question.
Attendez.
Excusez-moi de vous interrompre, mais vous dites que c'est toujours sur les mêmes données. Est-ce que c'est toujours sur le même enfant qu'on fait ces hypothèses ?
Donc l'ADN mitochondrial qui est obtenu, au début on en a, je ne sais plus si on en a qu'une seule séquence, mais c'est pas l'enfant dont je vous parlais. L'enfant, c'est des données, donc paléoanthropologiques, morphologiques, qui sont utilisées pour dire qu'il est trop robuste pour être moderne, donc il pourrait indiquer. Les analyses ADN se font sur d'autres échantillons. Petit à petit, on va analyser d'autres os. Donc moi je connais pas très très bien tous les os, donc peut-être que André se souvient et pourra contribuer à un moment pour expliquer quels sont tous les échantillons qu'on a analysés. C'était pas mon but ici, d'accord? C'est clair? Et là, vous allez plus loin. Si vous regardez la modélisation qui a été faite ici, en fait c'est une modélisation qui est, si je puis dire, temporelle, elle n'est pas spatiale, puisque vous dites l'espèce humaine, c'est un tube avec du mélange. C'est l'histoire au cours du temps, donc c'est une population qui se mélange. C'est une première simplification, hein, c'est tout à fait, moi ça ne pose aucun problème. Hein. Ce que font Mathias Cura et Laurent Excoffier, c'est de dire non, on va faire encore mieux, on va faire des simulations spatiales. Spatiales pas comme dans l'espace, hein, ils n'ont pas allé voir s'il y avait des Néandertals dans l'espace. Ils se posent la question. Est-ce que, si on imagine, il y a une petite mutation ici, vous avez une croissance, on va dire, de la population au cours du temps des hommes modernes, sachant que toute cette zone-là grisée est supposée habitée par les Néandertaliens. Donc ils disent, on va supposer qu'il y a des Néandertaliens. On va supposer que l'homme moderne part d'ici et commence à coloniser. Et on va simuler des mélanges. Et on va regarder tous les scénarios en faisant varier le mélange. Donc on va mettre un petit peu de mélange, et on regarde ce que ça donne. On met un peu plus de mélange, on regarde ce que ça donne. On fait encore plus de mélange, et on regarde ce que ça donne. Et à la fin, on dit, ben maintenant, qu'est-ce qu'on observe nous aujourd'hui? À quoi ça ressemble? Ça ressemble, quand on fait peu de mélange, un moyen mélange, ou un beaucoup de mélange? Moi, il m'a parlé bien français, et vous, il y en a comprendre? C'est bon? C'est clair? Donc, et la conclusion, qui est écrite en recette, c'est, pour eux, ils concluent à peu près la même chose. Peu d'interactions, on n'y croit pas. Il y a quelque chose, ils vont même discuter des histoires de potentielle stérilité, peut-être, ou de sélection. D'accord? Je ne suis pas allé dans le détail, parce que ce n'est pas le genre de question qui m'intéresse. Et pendant plusieurs années, il va y avoir vraiment un remue-ménage. On va avoir même, alors, par exemple, l'étude de Ludovic Orlando, qui est une étude, je crois que c'est en 2006, j'ai oublié de revérifier l'année 2006-2007, où c'est la première fois qu'on arrive à avoir un échantillon d'ADN ancien de 100 000 ans. Et là, pour moi, c'est complètement hors de tout ce que je peux imaginer. 100 000 ans de l'ADN est resté et on arrive à le récupérer. Alors tout ça, ça reste de l'ADN mitochondrial. Hein. Pareil, 2008, un nouveau Pabo qui est là, réussi à produire non pas un petit bout de l'ADN mitochondrial, mais la séquence complète. Alors l'ADN mitochondrial, c'est petit hein, par rapport à notre génome. Alors pour donner une idée, notre génome nucléaire, les gènes, ce qu'on appelle les gènes en général, c'est de l'ordre de 3 milliards, donc 10 puissance 9, 3 milliards de bases. Et vous en avez deux copies. Donc vous avez 3 milliards, c'est long. L'ADN mitochondrial, c'est à peu près 16 000. Oui, 16 000 bases, c'est ça. J'allais dire une bêtise. À peu près ça dépend des espèces, mais pour l'espèce humaine, c'est à peu près ça. Mais on n'est pas du tout. Donc là, on est de l'ordre de 10 puissance 4. 10 puissance 4, 10 puissance 9, ça fait un rapport de 10 puissance 5. C'est 1 sur 100 000. Mais on n'est pas du tout dans la même quantité, ok? Donc technologiquement, c'est incroyable, mais c'est pas encore le génome entier. En 2011, donc vous voyez que sur ce genre de questions, ça continue, on se pose des questions, on essaie des modèles différents. Par exemple, Guido Barbogliani, dont je vous ai parlé, qui était mon chef, fait une étude où il enfonce le clou, il regarde d'autres modèles, et il dit non, 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 les gars, on ne voit pas de preuve de mélange. A priori, l'ADN mitochondrial néandertalien, s'il est entré, il a été perdu, et il est, en tout cas, c'est probablement minime. Alors rappelons-nous, qu'est-ce que ça veut dire l'ADN mitochondrial, c'est de l'ADN qui vient donc de la lignée, non pas masculine, mais féminine. Okay. Un autre papier, par exemple, aussi que j'avais trouvé intéressant, c'est que, à nouveau, c'est l'ADN qui va permettre à un moment de remettre, et ça c'est en 2007, donc on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de papiers qui se publient, d'articles, sachant ce que ça représente comme travail, c'est absolument incroyable qu'il y ait une telle production. Et là, c'est à nouveau donc, les données, et en gros l'idée ici c'était de dire, on a regardé l'ADN d'individus obtenus dans des zones assez diverses, et vous avez par exemple en gris foncé ce que l'on croyait être la distribution maximale des Néandertaliens sur la base des néomorphos. Et eux disent, nous on est à l'échantillon là, et c'est du Néandertalien. C'est-à-dire que d'un coup, ils étendent la distribution, ils disent en fait les Néandertaliens sont allés beaucoup plus loin qu'on croyait en Sibérie. Mais, donc à nouveau, je suis désolé pour ceux qui... espérait. Donc la réponse, et n'oubliez pas, hein, jusqu'à ce moment-là, la communauté scientifique dit non. Peut-être en cachette, peut-être, mais non. Et je rappelle, c'est nouveau, c'est bon dans ce sens. Hein, je vous rappelle, comme c'est du mitochondrial, c'est un homme, au sens masculin, dans ce sens, et une femme néandertalienne, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas si vous savez, c'est Charlton Heston. Alors, c'est pas vraiment mon modèle d'homme. Hein. Pour ceux qui connaissent son implication dans la National Rifle Association, NRA. Voilà. Bref, mais bon, j'y peux rien. C'est une bonne chose qu'il ne soit pas reproduite pour reprendre. Donc, on est dans cette. Et à nouveau, en fait, pendant qu'il y a tout cette. Je veux dire, on continue à travailler sur la mitochondriale, il y a un truc absolument que je trouve incroyable. On n'y croyait pas, hein. Vraiment, il faut comprendre. Moi, je me souviens, en 97, j'étais encore en Italie avec Guido. J'avais entendu parler en 96 de ces histoires des mitochondriales anciennes. On était tous à se dire, incroyable. C'est possible. On savait que c'était très dur d'avoir déjà de l'ADN ancien. Il y avait des gens qui commençaient à mettre en place des méthodes pour avoir l'ADN à partir des fesses pour travailler sur les espèces menacées. Il y a des gens qui arrivent à avoir de l'ADN à partir de l'urine, des loups qui urinent sur les arbres. Il y a des gens qui arrivent, enfin, etc. Mais de l'ADN ancien, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Et après, on a dit, l'ADN n'éclaire n'importe quoi. Jamais ils vont y arriver. Ils y sont arrivés. Et mais vraiment, c'est technologiquement, c'est presque de la science-fiction. Et en fait, on va avoir en 2006 deux papiers. Donc l'analyse d'un million de paires de bases. Alors un million, je vois, ouais, donc c'est 10 puissance 6. Je vous rappelle qu'on est à 10 puissance 9 pour le génome entier. Donc on est à 1 millième, 0,1%. Du génome entier. C'est quand même pas mal, c'est beaucoup plus que 10 puissance 4, qui était le génome mitochondrial. Donc on a multiplié par 100. On est toujours à 1 millième du génome complet. Ensuite, on a à nouveau cette étude, James Newman. Donc, si vous regardez, le dernier auteur, là, c'est Rubin. Pablo, il est là, il est là. Vous savez, bon, je vois des pablos partout. En gros, ce genre de travail va apporter plein de discussions. Je ne rentre pas dans le détail, en plus je ne connais pas très bien toutes les discussions qu'il va y avoir ensuite au niveau de la sélection des gènes sur la couleur de mes cheveux. Il y a des discussions sur ça. Moi, j'avoue que ce n'est pas le truc qui me passionne. Et voilà. Le truc intéressant, c'était aussi qu'avec ce genre de données, ils vont essayer de dire est-ce qu'on arrive à dater la séparation. Parce qu'à nouveau, c'était un discours qui n'était pas clair. Quand est-ce que les Néandertaliens se séparent des hommes modernes? Et une des grosses conclusions ici, d'abord en général, vous voyez, bon, là, c'est de dire, ben, si ça c'est à peu près, comme disait à nouveau, c'est une très grosse erreur. Le problème, c'est qu'il y a des erreurs partout, si je puis dire, on n'est pas précis. Les gens vous donnent des nombres, généralement avec la génétique, faites attention, ne croyez pas les gens qui vous donnent des nombres très précis. C'est pas vrai, on ne peut pas être très précis. On arrive à rendre les choses précises si on intègre des informations extérieur. Mais sinon, si on ne prenait que les données génétiques, on n'arrive pas à être précis, parce qu'on n'arrive pas à comprendre et à mesurer bien les taux de mutation. Donc on a une erreur, souvent, parfois, quasiment d'un rapport de 10. Et ça change tout à cette échelle-là. Mais là, en gros, on est ici, comme on a beaucoup de marqueurs, on réduit cette erreur. Hein. Donc en général, on arrive à améliorer. Donc ça, c'est chimpanzé moderne, on va dire. Donc ça, c'est à peu près, allez, 5-7 millions d'années. Donc si vous descendez là, vous êtes à 1-2 millions d'années. C'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. En fait, eux vont dire... Et l'autre papier, lui, suggère en fait une séparation des deux espèces à peu près 400 000 ans. 370 ici, mais bon, avec les... Allez, on arrondit, hein, parce que... Donc ces deux papiers vont permettre d'essayer de cadrer un peu, de donner un cadre temporel un peu plus solide, on va dire. en fait, arrive, vous voyez, on est en 2006 quand il y a ces premières pré-génomes, et il faudra quasiment 4 ans pour que sorte le génome complet. Alors draft sequence, ça veut dire quoi? Draft, c'est un brouillon. Draft sequence, ça veut dire en gros, ils ont obtenu un truc, ils pensent à peu près tout le génome. En gros, imaginez, c'est 10 puissance 9, c'est 1 milliard de paires de bases. Ils ont réussi à peu près à le lire. En fait, il y a des zones du génome qui sont hyper dures à lire. C'est-à-dire, en fait, quand on vous dit ça, en général, on ne sait pas du tout. Il y a des tas de zones qu'on n'arrive pas à lire. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est trop compliqué moléculairement. Et puis, quand c'est pas compliqué moléculairement, c'est très difficile computationnellement, c'est-à-dire d'arriver à les mettre côte à côte, de savoir où elles se placent. Donc, il y a des vrais problèmes ici. Mais ils arrivent à avoir quelque chose. Et en gros, ce qu'ils disent, et ça va être un des trucs qui, je pense, nous ramène à notre diapo initial, c'est ils disent, en gros, bon, ils ont réussi à comparer le génome complet donc, d'un Français, un représentant, bien entendu, un des nombreux représentants de l'humanité, un Chinois Han, un Papou, un Yoruba, Nigeria, et un Saint, qui est une personne c'est pas des pygmées, c'est les sangs, c'est des populations africaines de l'Afrique du Sud, chasseurs-cueilleurs. Alors là, je suis un peu dubitatif sur ce genre de comparaison, parce que nous avons perdu énormément d'informations intéressantes. On en pose une qui ne l'est pas nécessairement, qui est d'imaginer que ces groupes-là ont un sens. Mais bon, ça serait une autre discussion. Et là, se pose, ça c'est le schéma qu'il propose. Il dit, on a testé plusieurs hypothèses. Alors, vous n'arrivez pas à lire, donc je vous le mets. Donc là, une séparation ancienne d'Homo erectus. Vous voyez que ça continue. Ça, c'est en gros, c'est la lignée humaine, avec ces groupements, ici, en gros, français, chinois, papou, yoruba et saint. Et il se pose la question, les néandertaliens se séparent à un moment. Est-ce qu'il y a eu des flux géniques avant les différentes séparations? Ça pose plusieurs problèmes, parce que ça veut dire qu'on croit qu'il y a eu des séparations comme ils le représentent. Et à mon avis, je fais partie des gens qui pensent qu'en fait, les populations humaines sont connectées, ont toujours été connectées, plus ou moins, se reconnectent. Donc l'histoire des populations humaines ne peut pas se représenter avec un arbre. La seule raison pour laquelle on peut le faire, c'est quand on a une question très précise, très spécifique, donc ça peut être le cas là, pour dire, je voudrais voir à quoi ressemble ce nombre qui m'intéresse sous telle hypothèse. Mais en dehors, c'est très dangereux. Et donc, ça, c'est un peu la version publique qu'on retrouve sur des sites ou dans des journaux. Je ne sais pas comment on est en termes de temps. Sébastien, j'ai dépassé. On peut s'arrêter, hein, pour moi.
Non, on a 20 minutes encore en tout.
D'accord, alors 5 minutes pour conclure, d'accord.
Et juste pour le feu, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste qu'elle a allumé un feu à côté.
Encore un coup des néandertaliens, j'imagine. Alors, voilà, c'est ce genre de version, et bon, voilà. Ça permet des discussions. Alors, en fait, l'idée qu'on retrouve maintenant dans la littérature, il y a une compagnie qui s'appelle 23 and me, ça veut dire 23 et moi. 23, c'est quoi? C'est nos chromosomes. Donc, 23 chromosomes et moi. C'est une compagnie, si vous leur dites que vous êtes intéressé, vous faites un petit truc dans votre bouche, là, ils vous envoient un tube, vous leur envoyez, et ils ont une puce ou un truc, ils vous séquencent, ils vous donnent les données génétiques sur à peu près tout votre génome, sauf que c'est un truc prédéterminé, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des choses particulières. Et comme ils savaient que les gens avaient envie de savoir s'ils avaient du néandertalien, ils ont utilisé ce genre de papier pour vous dire est-ce que vous avez potentiellement des allèles néandertaliens et quelles proportions. Donc vous pouvez avoir sur un site une analyse qui vous dit quels sont vos allèles de soi-disant prédisposition au diabète, ce genre de trucs. Bien entendu, le fait que vous buviez beaucoup de Coca-Cola ou mangez du gras n'est pas très important. C'est surtout votre génome qui détermine tout, chacun le sait. Et donc, vous avez besoin de trucs qui existent, qui ont une pose problème, mais on va vous dire, voilà, vous avez 3% de néandertaliens. Super, si vous voulez boire un coup. Je sais pas, 4%. Putain, tu étais plus fort que moi, toi. Je sais pas ce que ça sert. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est ce qu'on vous propose et ça marche. Il y a des gens qui. Et en fait, ce que va dire ce papier, c'est une chose qui moi me semble assez naturelle, qui en fait a été dite par un ensemble de généticiens de population, c'est de dire lorsqu'on trouve des soi-disant allèles néandertaliens dans une personne, en comparant des génomes de néandertaliens et d'humains, en fait, les modèles implicites qu'on fait pour faire ces analyses, c'est que l'espèce humaine est un grand fouillis de mélanges, ce qu'on appelle le random mating, le massage, une sorte de mélange complet de toutes les populations humaines. Et en fait, on sait d'un point de vue théorique qu'il y a de très nombreux attendus. Alors, c'est un peu difficile à expliquer, mais lorsque vous avez une population, les gens se reproduisent au hasard, ils ont des enfants, ils se reproduisent au hasard, ils ont des enfants, et ça continue. Si vous prenez deux gènes, vous prenez donc deux allèles, vous prenez par exemple l'hémoglobine, vous prenez mon allèle d'hémoglobine, celui qui vient de mon papa, celui qui vient de ma maman, vous regardez. Et vous posez la question, combien de temps avant de trouver leur ancêtre commun? Et bien la réponse que vous allez obtenir, si vous dites que ça se mélange, et si vous dites non, ça ne se mélange pas, il y a de la structure, elle n'est pas du tout la même, mais pas du tout, du tout, du tout. Dans un cas, quand ça se mélange, ça va être relativement récent, c'est pas très récent, hein, mais c'est récent, et quand c'est structuré, ça dépend. Parfois c'est récent, et parfois c'est très très vieux. Et ce parfois, ça pourrait être, comme par hasard, un temps très vieux, qui est de l'époque des Néandertaliens, où les hommes néandertaliens n'étaient pas séparés des Néandertaliens. Et donc, ce n'est pas des allèles néandertaliens, c'est des allèles qui étaient présents dans ces trucs qui existaient avant. Il se trouve juste que certaines copies ont survécu dans l'espèce humaine parce qu'elle est structurée, elles ont survécu chez les Néandertaliens parce que les Néandertaliens sont structurés, et du coup, il n'y a pas eu de mélange. C'est juste que, par exemple, nous avons des yeux marrons, pour beaucoup d'entre nous, les chimpanzés aussi. Va-t-on aller chercher, alors je ne sais pas si c'est les mêmes allèles, donc peut-être que là je dis une petite bêtise, mais en gros c'est quoi? C'est parce qu'ils ont des yeux marrons, mais aussi il y a eu un mélange. C'est quoi ces histoires? C'est pas si simple. Et en fait, Manica donc, et Erickson, j'ai oublié un S, publient en 2012 un papier où ils disent, attendez, nous on pense que la plupart des résultats où les gens disent qu'il y a eu un mélange, on les explique nous, très très bien par un mélange, un modèle simple mais structuré, dans lequel on dit... Dans le passé, il y avait une population humaine, alors il simplifie, il dit ça c'est un dessin, il ne faut pas prendre à la lettre. En gros, vous avez l'Afrique, l'Eurasie, il y a des populations structurées. À un moment, elles se séparent pour une raison qu'on ne connaît pas. Ceux-là, on va les appeler nous, puisque nous, on n'arrive que là, on n'existe pas à ce moment-là. Et eux-mêmes, ils ne s'appellent pas néandertaliens. Eux, c'est juste des gens. Les néandertaliens sont là, les futurs hommes modernes sont là. Le temps passe, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la fameuse expansion à partir de l'Afrique, dont vous avez à nouveau parlé ce matin André Langanet, en rappelant à quel point l'espèce humaine est très peu différenciée, quand on la compare à n'importe quel grand singe, et même à n'importe quel grand singe, au gorille, au chimpanzé, on est très 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 peu différenciés, alors qu'on est partout, qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Et ça suggère une expansion à partir d'une seule, peut-être, de ces petites populations qui colonisent, éliminent peut-être les autres. Et les allèles qu'on retrouve ici et dont on dit qu'ils viennent de là, ils viennent comme ça. Ils ne viennent pas nécessairement par des mélanges. Voilà. Donc la question ici, c'est pas de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec les uns, c'est de comprendre qu'il y a une réelle controverse. C'est, on est dans un domaine où quand on vous dit il y a 5%, il y a 3%, qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir ce fameux nombre, parce que ça c'est un truc, on prend des données, on fait un truc statistique, on a un nombre à la fin. Ce nombre, il peut être obtenu de manière différente, d'un point de vue évolutif. Et là, je ne pouvais pas ne pas mentionner un truc qui était rigolo, alors je ne sais pas ce qu'on pense à nouveau André par rapport à ça, parce que ça c'est un truc à nouveau, c'est rigolo comme histoire, il y avait des vieux fossiles, enfin des dents et un petit bout d'os, un petit bout de doigt, qui avait été trouvé dans une grotte très loin à Denisova, en Sibérie. Et on ne savait pas ce que c'était. Les gens pensaient que ça va être du Néandertal. Et en fait, ils ont analysé, ils ont résulté dans l'ADN. Et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est que c'est très différent de moderne, mais en plus, c'est différent de Néandertalien. Et ça m'a l'idée que peut-être, en fait, il y a eu encore une autre espèce non connue. Alors moi, j'ai une collègue qui est archéologue qui me disait qu'elle avait été impressionnée par ça, elle ne savait pas quoi en penser, puisqu'elle n'était pas compétente pour juger le travail, mais elle disait c'est la première fois que qu'on définit une espèce sur la base d'un génome. Parce qu'en fait, on n'a vraiment rien. On a ses dents et un petit bout de phalange. On n'a jamais fait ça avant. Alors en fait, c'est pas complètement vrai. Les anthropologues, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, ils définissent des espèces à tire-larigot. Hein. Donc peut-être qu'on va repartir en arrière.
Alors la situation aujourd'hui, c'est les Néandertaliens, voilà ce qu'on pense de leur distribution, voilà le genre de représentation qu'on peut avoir d'eux. On sait qu'ils faisaient du feu, on sait qu'ils avaient des représentations symboliques, mais par exemple ça, c'est quelque chose qui était rejeté par la communauté pendant très longtemps. On trouvait n'importe quelle explication pour ne pas laisser les Néandertaliens être responsables d'un truc culturel qu'on trouvait avec des Néandertaliens. Il fallait toujours dire, non, ouais, il y a des Néandertaliens, ok, mais c'est des modernes qui ont dû le faire, le dessin. C'est des modernes qui ont dû apporter les outils. Ah, mais il y a des fleurs, non, mais c'est pas des fleurs, ça doit être le vent qui a amené les fleurs. C'est pas une pensée symbolique. Alors moi, je suis pas très compétent pour juger à quel point c'était un bon n'importe quoi, mais c'est vraiment toujours bizarre. Surtout que maintenant, on l'accepte. Donc c'était peut-être pas si convaincant. Donc l'idée, à nouveau, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens disent, et ça semble relativement solide, mais à nouveau, hein, le futur nous le dira, mélange entre homme mâle et femme néandertalienne, vu qu'on ne trouve pas l'ADN mitochondrial, ça semble pas avoir été important. Dans l'autre sens, on n'en sait rien. Alors ces photos, c'est pas de moi, c'est Diable Goudo qui m'a donné ça. Donc tout ce qui est les belles photos, je dirais, de Néandertaliens, la responsabilité, je laisse à Guido. Voilà. Et la question, en fait, que posent certaines personnes, et je m'arrêterai peut-être là pour qu'on ait le temps de discuter, je ne veux peut-être pas parler nécessairement de transition néolithique, mais c'est rigolo cette histoire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Vous avez quelques éléments, j'espère ici, de comprendre qu'il y a des désaccords qui sont liés à des hypothèses méthodologiques. Donc ça, c'est important de se rendre compte qu'il y a des gens qui arrivent et qui vous font des affirmations, il y a 30%, etc., mais qui ne vous expliquent pas quelles étaient leurs hypothèses. Parfois, ils ne les savent pas. Parce que c'est pas toujours facile à formaliser. Ça, c'est une des choses. Mais par exemple, Guido me disait, ça c'est un truc, il disait, mais en fait, c'est quand même bizarre cette histoire, parce qu'on ne trouve pas d'ADN mitochondrial. Dans la plupart des cas, quand une population humaine est arrivée quelque part, en général, elle tue les mâles et elle prend les femelles, les femmes. Excusez-moi, je travaille sur les animaux, donc en général, et en anglais, on dit female, donc c'est pas négatif, excusez-moi. Donc, en général, c'est ça qu'on retrouve. Si vous allez en Amérique latine, vous retrouvez de l'ADN mitochondrial amérindien, et beaucoup moins, par exemple, chromosomes Y sont souvent d'Europe du Sud, Espagne, Portugal ou de France. Il y a vraiment des choses comme ça. On sait qu'il y a des biais typiques en des populations humaines. Alors, c'est pas la même chose. On peut pas nécessairement transférer ça à des choses qui se sont passées il y a 40 000 ans. Mais c'est bizarre de se dire comment ça. Donc, chez les Néandertaliens, serait passé le contraire. C'est-à-dire, les modernes seraient arrivés, n'auraient pas pris les femmes néandertaliennes. Mais en revanche, ils auraient dit, vous avez laissé les Néandertaliens qu'ils vont éliminer avoir des enfants avec les femmes modernes. Ou est-ce que les femmes modernes c'était elle qui... Alors, ça pourrait être une autre question. Est-ce que ce ne sont pas les femmes modernes, dans ce cas-là, qui sont les leaders de cette... Et dans ce cas-là, ça amène peut-être à remettre en question plein de choses. Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai pas... Mais il y a quelque chose de bizarre ici, dans cette histoire. Et c'est très marrant parce que personne ne le discute, ça. De se dire, c'est bizarre, ça ne correspond pas au patron qu'on observe en général. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout revoir, à savoir pourquoi cette vision des hommes et des femmes qui suivent, ces choses-là. Et je le dis en plus parce qu'avec mon étudiante Rita Rachtelou, il y a quelques années, dans le cadre de la transition néolithique, mais je ne vais pas le... On s'était posé ce genre de questions, c'est-à-dire, si on regarde l'ADN mitochondrial, si on regarde le chromosome Y, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la même histoire. Et nous, on a essayé de voir dans quel sens ce n'est pas la même histoire. Et nous, on arrivait à dire, mais attendez, c'est marrant, parce que c'est toujours pour raconter l'histoire que les hommes sont arrivés, ils ont éliminé, les femmes suivaient. Et nous, on dit, non, on trouve aussi des patrons de femmes qui ont le même chemin que les hommes. On ne voit pas du tout, genre, c'est les hommes qui ont colonisé, parce qu'ils sont aventureux, bien entendu. Et on dit, non, on ne voit pas ça. On voit, en appliquant les mêmes méthodes, on trouve que on pourrait tout à fait aussi bien dire que probablement, c'était des groupes d'hommes et de femmes, même nombre, et ils ont avancé. Donc, c'est pas trivial du tout. Il y a des blocages, je pense, idéologiques dans la façon d'analyser les données, de poser les questions qui méritent d'être discutées. Je m'arrête ici. Je vais juste passer rapidement tous ces jolis diapos sur le néolithique, hein, désolé, vous n'aurez pas ça. Et Rita, quand même, qui a fait, c'était son travail de thèse, on a fait tout un ensemble de modélisations. Alors, je vous remercie, et voilà, on finit avec des singes.
Oui, bonjour. Bon, je n'y connais rien. Pour moi, c'est tout neuf, mais je pense avoir compris le problème que vous soulevez. Et alors, comment ce que vous soulevez, je suppose qu'il y en a d'autres qui l'ont soulevé, que c'est pas vous tout seul dans votre coin qui soulevez cette question. Est-ce que c'est discuté maintenant ou bien on reste sur le fait que nous avons 4% de Néandertaliens, comme le dit une autre conférence à la fête.
Alors à nouveau, je pense qu'il y avait effectivement une conférence qui dit ça, mais à nouveau, je ne sais pas quel est le contenu. Moi, j'aurais tout à fait pu écrire, hein, il y avait 4% et dire et poser la question. En fait, ma question, c'est plus. C'est pas de remettre en cause les 4%. 4%, c'est un chiffre d'une statistique et un sens qui a été ou pas validé. La question, c'est qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà. Alors, elle est, bien entendu, donc il y a des gens qui posent ces questions de structure de population et de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai montré le travail d'Erickson et Manica. Mais en fait, c'est des gens minoritaires. C'est-à-dire que, actuellement, la plupart des gens qui font de la génomique sur Néandertal maintiennent ces histoires de 1, 2, 3, 4%. C'est leur discours, c'est comme ça. Et ça va être très, très dur de les faire changer déjà d'avis. Moi, je le vois, je suis un peu, cynique par rapport à la façon dont la science progresse dans ce genre de domaine où, en fait, il n'y a pas de cadre théorique très solide. C'est, en gros, les gens qui s'accaparent les ressources décident de quelle est la bonne thématique, décident de ce qu'on peut dire. Et quand eux changent d'avis, dans ce cas-là, on peut changer d'avis. Et bon, c'est pas très très grave, hein. Nous on fait notre recherche, enfin, c'est dommage, mais c'est une activité humaine, hein. Pour moi, la recherche, c'est pas justement, c'est, il faut ne pas oublier que la recherche est une activité humaine dans laquelle se passe plein de choses, on le sait par l'histoire des sciences, il y a des choses qui s'améliorent, mais voilà, il faut se poser des questions. Il y a des gens qui se posent, donc Andrea Manica, qui est un Italien qui travaille, je crois, à Cambridge ou Oxford. Personne ne l'empêche de travailler. Il a publié son article dans une très très bonne revue qui s'appelle PNAS. C'est l'Académie des sciences des États-Unis, les contributions. Donc il y a discours, c'est pas impossible. Mais c'est vrai qu'il y a une idée dominante, comme il y a eu d'autres idées dominantes en science. C'est pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire à leur histoire. Mais pourquoi pas? Je dis pas non, je dis juste, je pense pas que vous l'avez démontré.
Merci.
Vous parliez des modèles homme-femme qui avaient existé. Vous avez dit que l'homme moderne aurait exterminé l'homme de Néandertal. Alors, quels sont les indices?
Alors, j'ai peut-être mal parlé. Ce que je sais, c'est ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des Néandertaliens qui ne sont plus là. Que même si on croit qu'il y a eu mélange, il est visiblement limité. Donc ça, c'est les deux choses. Que plein de simulations, en tout cas pour la génétique mitochondriale, montrent que le genre de relations qu'il a pu y avoir sont très limitées. En plus on a une raison de penser, c'est que en général lorsque vous envahissez une nouvelle région, en fait si vous vous mélangez avec les populations locales, vous pouvez montrer très facilement qu'en fait c'est votre génome qui se dilue. Parce que vous, par exemple, vous arrivez, admettons, vous êtes à 99 contre 1%, on se reproduit. Enfin, ils sont à 99, ils ne sont plus à 100% avec votre génome. Vous avez 99, vous allez plus loin, vous reproduisez avec eux, donc vous passez 99 à 98. En fait, c'est une loi exponentielle. Ça décroît. Et ça décroît très vite, en fait. Donc ça dépend à quel rythme, quel est le phénomène spatial. Donc en fait, les phénomènes d'invasion, en général, diluent quelque part, au moins dans certains modèles, les gènes qui rentrent dans la population. D'accord ? Et dans le cas du Néandertalien, on ne sait pas si on les a éliminés. Moi, à nouveau, ça, c'est des questions, j'ai envie de plus de paléanthropologues. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont plus là. Qu'ils n'ont visiblement pas beaucoup contribué à notre génome. Et la façon dont certains disent qu'ils ont contribué ne correspond pas nécessairement à ce qu'on connaît d'autres invasions. Mais pourquoi pas? Je veux dire, il y a toujours des exceptions. Moi, je ne dis pas que c'est faux.
Ils auraient pu disparaître à cause des germes amenés par ces hommes modernes contre lesquels ils n'étaient pas...
Je sais pas. Moi, je sais que j'avais demandé ça à des gens qui m'avaient dit non, mais ces histoires de maladies, on n'y croit pas parce que le timing n'est pas bon. Si c'était une maladie, ça se serait passé beaucoup plus vite. Là, il y a quand même eu des cohabitations au Proche-Orient. Enfin, il y a tout un ensemble de raisons, je crois, qui font que. Moi aussi, je m'étais posé la question, est-ce que c'était pas quelque chose qu'on négligeait?
Je voudrais juste un petit éclaircissement par rapport à la séparation. Vous dites c'est séparé hein, de l'homme moderne. Mais alors, c'était la même espèce originellement? Et on a toujours l'impression, quand on lit des choses là-dessus, bon, la vulgarisation, que les Néandertals, ils étaient qu'en Europe. Ils sont venus d'Afrique aussi, les Néandertals, avant? Voilà. C'est ça là, ma question. Mes questions.
Globalement, alors j'ai fait un petit peu montrer là. Alors, ce qu'on sait, voilà, alors, on a des Néandertaliens, on connaît à peu près leur distribution maintenant et on a une bonne idée. On sait à peu près la date des os, on est capable de dire ils existent à tel moment, avant on n'en trouve pas, après on n'en trouve plus. Pareil l'homme moderne, pareil les Homo erectus, pareil les Heidelbergensis. Donc on a tous ces éléments de puzzle et après vous regardez, et si vous croyez dans l'évolution, et on a quand même tout un ensemble de bonnes raisons d'y croire, et ce dont on n'est pas sûr, c'est comment ça fonctionne. Mais l'évolution, je crois que c'est un fait indéniable. Maintenant, donc, les Néandertaliens et nous, on a nécessairement un ancêtre commun. Et a priori, jusqu'à preuve du contraire, il vient d'Afrique. Ne serait-ce que parce que nous, on vient d'Afrique. Donc, sinon, on n'en a pas bougé, l'ancêtre commun, il est au moins, c'est le nôtre, il était en Afrique. Voilà. Ça ne semble pas absurde pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, oui, tout à fait. Donc, en fait, les Néandertaliens, c'est une première vague d'expansion. À partir, à nouveau, si vous le voyez plutôt comme le dessin de Manica et Erickson, là, que je... Non, c'était avant... Ouais. Là, vous pouvez dire, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, soit ils sont venus avant, soit ce que vous avez, c'est imaginer tout ça, c'est des tas de populations d'hommes, on va dire, archaïques, qui sont présents. Il y en a en Afrique de l'Ouest, il y en a en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est. Ils échangent, parfois il y a des migrations, parfois il y a des groupes qui disparaissent. Il y en a qui sont présents au Proche-Orient, il y en a qui du coup, à partir du Proche-Orient, passent dans le Caucase, il y en a qui vont en Europe, ils sont là, il y en a qui reviennent, il y a tellement de choses qui se passent sur des milliers d'années, et puis peu à peu, pour des raisons qu'aujourd'hui on n'est pas capable de comprendre, en fait, quand on regarde morphologiquement, parce qu'en plus on a des trous dans ces fossiles, on dit, bah ouais, il y a quand même un truc, là, qu'on appelle le Néandertalien, il est présent de là à là, à tel moment, c'est clairement différent de l'homme moderne, les distributions ne correspondent pas, alors là, voilà, faut essayer de se souvenir, je pense, de comment on arrive à ces histoires. Et on a bien un ancêtre commun. Ça, je crois que ça ne pose pas de doute. Sauf à imaginer que les espèces apparaissent par je ne sais quel phénomène que je ne connais pas non plus.
Est-ce que vous pensez que l'homme moderne aurait pu submerger génétiquement l'homme de Néandertal parce que simplement il aurait eu des qualités d'adaptation ou autres qui lui auraient permis de prospérer de façon extraordinaire?
Alors, la question c'est que même si c'était le cas, si on se mélange, ça dépend de ce que vous appelez submerger. Si vous me dites, on est arrivé, on était meilleur, on les a tabassés, ils sont morts, enfin on, moi j'étais pas là à nouveau, hein. Enfin, les gènes, ok, mais il n'y a pas de mélange, donc là, ça ne répond pas à notre question par rapport aux gènes. Si maintenant vous me dites, c'est, on a fait des enfants avec eux, mais il y avait des gènes avantageux dans certaines populations, je me dis, d'accord, alors dans ce cas, où sont les autres? Parce que la majeure partie du génome se comporte de ce qu'on appelle, d'une manière qu'on appelle neutraliste. C'est qu'en gros, il n'y a pas d'effet sélectif particulier, c'est pas particulièrement avantageux d'avoir ce petit bout d'ADN que celui-là. Les forces de sélection ne sont pas si grandes, c'est pas si vieux que ça. On verrait autre chose. C'est-à-dire c'est pour ça que je disais à un moment, moi je m'intéresse plus à la partie. Alors je vous ai dit, on nous raconte plein d'histoires sur les gènes avantageux, sur le fait qu'ils avaient la couleur ci, ils avaient les yeux comme ci. Mais moi, ici, on rentre, à mon sens, souvent dans le storytelling, on raconte des histoires. C'est un peu. Donc moi, j'y crois pas trop à ça. Ça se verrait si c'était comme ça. Je sais pas, on n'est pas. Sébastien est dans quoi encore ou... Voilà. Pardon. Je sais pas.
Encore des questions, on peut continuer à la discussion après, hein.
Est-ce que vous avez encore une question? On a encore le temps pour éventuellement une petite question avant qu'on termine la conférence. Non? Pas de regret? Bon, on termine là-dessus et je remercie encore une fois Lounès d'être venu.